Négawatt, un scénario de transition énergétique pour la France. Christian Couturier, président de l'association Négawatt, et Thierry Salomon, ingénieur énergéticien, porte-parole de l'association Négawatt.
Voilà, je vous remercie à tous d'être là et je vais essayer de savoir la question.
Bonjour à tous. Alors là, on a choisi pour présenter le scénario. On a deux façons de présenter le scénario. En gros, soit on déroule tout le raisonnement du scénario et c'est un peu complexe et il nous faut bien une heure et quart avec le temps de discussion après, forcément. Donc il nous faut plutôt une heure et demie. Donc là, l'option, c'est plutôt ce que j'ai appelé un coup d'œil et trois illustrations. Donc, un coup d'œil global sur le scénario, mais ça va être très frustrant parce que je vais aller très vite sur plein de choses. Donc je vais vous expliquer un peu comment on a travaillé et les principaux résultats qu'on obtient. Et puis après, je vais prendre trois illustrations de la démarche pour prendre 5 minutes à peu près par sujet pour que vous ayez des choses concrètes, hein, parce que le scénario qu'on présente comme ça peut paraître assez théorique avec beaucoup de graphiques, etc. Mais en fait, dans la réalité, ça part vraiment de choses sur lesquelles on travaille, nous, en tant que souvent la plupart de nous, acteurs de terrain. Alors d'abord, l'association Négawatt, c'est quoi? C'est une association qui a été créée il y a pas loin de 20 ans maintenant, 17 ans, par des gens qui travaillent dans l'énergie, donc tous dans nos différentes structures, hein, donc des professionnels de l'éolien, de la maîtrise de l'énergie dans des collectivités locales, dans des institutions internationales, dans des administrations. Moi, je travaille à Solagro, pour ceux qui connaissent. On travaille aussi sur les questions d'agroécologie, donc j'ai mon collègue qui fera une présentation sur un autre scénario qui s'appelle After 2050, qui est un peu l'équivalent de Négawatt, mais sur l'agriculture. D'ailleurs, les deux scénarios sont très jumelés, hein, parce qu'on travaille aussi sur les questions de climat. Donc, dans le climat, il y a le CO2 de l'énergie, mais il y a aussi tous les gaz à effet de serre de l'agriculture, plus la forêt, plus tout ça. Voilà, donc on a essayé de faire une approche intégrée. Donc voilà, donc à la base, on est des praticiens, souvent des professionnels de l'énergie ou des militants. Et on s'est posé la question à un moment donné de toutes nos alternatives, hein, comme on dit, tous les sujets sur lesquels on travaille. Si on les met bout à bout, si on les assemble, est-ce qu'on arrive à faire autre chose que le système actuel, et pas simplement à la marge, mais est-ce qu'on arrive à sortir du nucléaire, sortir des fossiles à la fois? Donc c'était un peu ça notre question. Donc la réponse, ben oui, enfin nous on pense qu'on a trouvé une solution pour y parvenir. Voilà, donc il y a tout le côté prospective avec les scénarios. Donc on a construit en 2003 le premier scénario qui montrait comment on pouvait diviser nos émissions de gaz à effet de serre. Et même on est sur un scénario ce qu'on appelle ZEN, hein, zéro émission nette en 2050, donc j'en reparlerai, mais en gros les émissions de gaz à effet de serre qui resteraient en 2050 seraient compensées par ce qu'on appelle les puits de carbone, notamment la forêt, mais aussi en partie l'agriculture. Voilà, donc il y a de la réflexion stratégique, il y a toute une activité de plaidoyer, de lobbying, peu importe comment on l'appelle, hein, à l'échelle nationale. On travaille aussi sur des mesures et des propositions. Et donc, voilà, on a une vingtaine de membres actifs, 25 ambassadeurs et un peu plus d'un millier d'adhérents qui nous soutiennent. Et puis, on a créé aussi l'Institut Négawatt, hein, qui est un peu notre branche opérationnelle pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qu'on défend, et notamment l'Institut Négawatt est très actif sur des solutions de massification de la rénovation énergétique du bâtiment. Voilà, alors avant de continuer, je vais poser une question, c'est qui connaît le scénario Négawatt? Alors qui connaît bien le scénario Négawatt?
C'est subjectif, hein, mais voilà, quelques-uns. Ouais.
Qui connaît à peu près le scénario Négawatt? Ok, qui a entendu parler du scénario Négawatt, c'est beaucoup plus, et qui découvre totalement le scénario Négawatt. Ah, bon, plus que ce que je pensais. Ok. Il va falloir que je reprenne les fondamentaux. Non, ça ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu. Donc la démarche Négawatt, c'est simple, hein, ça repose sur ce que nous on appelle le triptyque Négawatt, c'est-à-dire sobriété, efficacité, renouvelable. Quand vous avez compris le triptyque Négawatt, vous avez compris l'essentiel de ce qu'on essaye de faire passer comme message et les sujets sur lesquels on travaille. Donc la sobriété, c'est quoi? C'est travailler sur les besoins de services énergétiques. Avant de dire qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de services. On a besoin d'avoir des bâtiments confortables, on a besoin de se déplacer pour aller au travail, etc. Donc la sobriété, c'est tout le questionnement du niveau de service auquel on a besoin, et ensuite seulement on se pose la question de quel type d'énergie, combien, etc. pour satisfaire ces services. Donc ça questionne à la base nos modes de vie, hein, simplement. Ensuite, l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est le travail sur la réduction de la quantité d'énergie qui est nécessaire pour satisfaire à ses besoins énergétiques. Et ensuite, les renouvelables, c'est-à-dire qu'on a réduit les besoins par l'action sur les usages, réduit la demande d'énergie par l'action sur l'efficacité. Donc là, on travaille plutôt sur du comportement, alors individuel ou collectif, hein, on insiste beaucoup aussi sur la dimension collective. Là, on travaille plutôt sur l'efficacité des appareils, donc des chaudières qui consomment moins, des moteurs qui consomment moins, des ampoules qui consomment moins, etc. Donc là, on est plutôt sur l'approche technique. Et puis, cette énergie qui reste quand même à consommer, eh bien, on la produit à partir de ressources renouvelables et pas à partir de ressources flux. Donc la question, c'est voilà, c'est quoi l'équilibre entre ces trois piliers pour arriver à sortir des fossiles et sortir du nucléaire. Donc on a beaucoup travaillé, notamment sur cette question de sobriété, et dans le débat, pendant longtemps, le terme de sobriété était connoté de façon négative. Alors pas forcément dans nos milieux à nous, mais dès qu'on veut travailler sur des scénarios de transition, sur la loi par exemple, sur la transition énergétique, hein, dans un certain nombre de milieux, la sobriété c'était un terme repoussoir, comme la décroissance, c'est des termes repoussoirs. Donc nous, on a beaucoup travaillé pour rendre la sobriété souhaitable, désirable, et donc donner des valeurs positives. Et d'ailleurs, le terme de sobriété figure dans l'article 1 de la loi sur la transition énergétique qui a été adoptée en 2015. Donc pour nous, on considère que c'est au moins une victoire symbolique, parce que c'est des termes qu'on utilise nous, hein, qui sont, moi je dis que la sobriété fait désormais partie des valeurs positives de la République française. Bon, c'est peut-être un peu vite dit, n'empêche que c'est dans la loi et c'est quand même une victoire, et comme on n'a pas tous les matins, on est quand même content d'y être arrivé. Et donc il faut questionner les besoins. Alors questionner les besoins, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont vitaux. L'énergie, ça sert à plein de choses, hein, et donc il y a des besoins qui sont vitaux, il y en a qui sont essentiels, indispensables, et puis après plus ou moins utiles ou futiles, et puis d'autres extravagants, inacceptables et nuisibles. Et donc on a des besoins qui doivent être assurés absolument, et puis d'autres qui doivent être découragés, voire totalement interdits. Et en termes de politique publique ou en termes de comportement, il y a un certain nombre de régulations qu'il faut mobiliser. On a le droit de mobiliser tous les outils de la régulation, publique notamment, parce que nous, on travaille aussi beaucoup sur les politiques publiques, alors à l'échelle nationale ou à l'échelle territoriale, et on a le droit d'obliger, on a le droit d'interdire, on a le droit d'inciter, on a le droit de chercher à dissuader. Donc il y a tout un gradient, hein, en fonction du degré plus ou moins intolérable de certains usages. Par exemple, un usage comme celui-là. Donc ça, c'est une des illustrations préférées de ce que n'est pas la sobriété énergétique. Donc vous avez tous compris le côté alors drôle parce que absurde. Et donc on se dit, alors ça coûte cher, ça dépense de l'énergie, ça consomme des matériaux, c'est totalement contre-productif. Donc est-ce que ce genre de truc, ça doit être toléré? Et nous, on dit qu'il y a des choses qui ne doivent pas être tolérées parce que ça relève de consommation, alors sont allées jusqu'à criminelles, mais enfin c'est inacceptable, voilà. Donc il y a des choses qu'il faut dissuader. Donc il y a tout ce travail sur la sobriété. Donc les fondamentaux, c'est on a cherché à bâtir, alors pas un scénario idéal, on est loin de l'idéal, on a voulu bâtir un scénario qui soit à la fois réaliste et soutenable, c'est-à-dire un scénario qui permet à suffisamment d'acteurs de la société, à suffisamment de parties civiles, de pouvoir dire ce scénario-là, il nous plaît, on pense qu'il est faisable et on pense qu'on peut aller dans cette direction. Voilà. Donc il y a tout le côté acceptabilité du scénario par des pans de la société large et pas que nos petits cercles militants et motivés. Donc c'est pour ça qu'on a voulu bâtir un scénario qui était alors à la fois réaliste et soutenable. Hein. Après, bon, on peut toujours discuter du degré de réalisme et de soutenabilité, avec une hiérarchisation des solutions, avec une action sur la demande, utilisation des énergies renouvelables à la place des fossiles et des fissiles. un réalisme technologique et économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de Paris technologique, en tout cas pas trop, c'est-à-dire que toutes les technologies qui sont dans notre scénario, c'est des technologies, alors soit elles sont déjà existantes, on a déjà des exemples de massification à grande échelle ailleurs, soit c'est des solutions qui sont bien documentées, qui sont encore à l'état de prototypes, mais sur lesquels on a des degrés de certitude, en tout cas de confiance suffisamment élevés pour penser qu'ils vont pouvoir se développer à une certaine échelle. Soit ce n'est pas tout à fait le cas, et à ce moment-là, on les mobilise éventuellement, mais peu. Voilà. Donc il y a tout un travail sur quelles solutions on mobilise, à quelle échéance, en fonction de leur degré de maturité technique ou économique ou sociale ou environnementale. Alors, il y a aussi toutes ces composantes dans l'analyse de ce que c'est qu'une solution dite mature. Et avec aussi une trajectoire, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire l'horizon, il est joli, c'est comment on y arrive. Donc à quelle vitesse? Et donc il y a toute la vitesse de la mutation de tous les systèmes. Parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie, ça irrigue la société. C'est le sang de nos sociétés, l'énergie. Hein. Il y en a dans les transports, il y en a dans l'habitat, il y en a, enfin, on utilise de l'énergie partout, tout le temps, etc. Donc on a énormément d'acteurs à faire bouger, donc nous tous en tant que citoyens, mais nous tous en tant que professionnels, en tant que tout ce que vous voulez, que consommateurs, etc. Et donc il y a des mutations de secteurs entiers qui prennent du temps, parce qu'il faut l'accompagner, parce qu'on veut éviter, je sais pas moi, la casse sociale, etc., etc., la fuite de carbone, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, il faut, voilà, il faut prendre le temps. Donc, la notion de trajectoire pour y arriver, c'est aussi un point qui est clé. Et puis, ce n'est pas qu'un scénario carbo-centré. Ce n'est pas un scénario qui est centré sur un seul critère. On a cherché à prendre en compte l'ensemble des impacts et des risques liés aux énergies. Hein. Et parfois, on a des dilemmes, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui ne sont pas parfaites sur tous les plans. Ça n'existe pas trop, hein, y compris la sobriété. Ce n'est pas parfait sur tous les plans. Chaque solution a sa limite. Donc, c'est un dosage qu'on a cherché à faire entre des solutions qui présentent chacune les bénéfices, des inconvénients, des impacts, des risques, etc. Et une ligne directrice, c'est que dans tous les cas, on cherche à léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Donc, à la fin, on arrive à quoi? Ben, on arrive en termes de consommation d'énergie finale. Donc là, j'ai sauter toute la démonstration sur qu'est-ce qu'on fait secteur par secteur, énergie par énergie. À la fin, dans le bâtiment, par exemple, on réduit fortement la consommation d'énergie dans le bâtiment. Alors, je ne sais pas si c'est limité, mais on part d'aujourd'hui, 2015, qu'on a construit le scénario, à 2050. C'est l'horizon auquel on se place. Hein. Donc ça, c'est la consommation d'énergie en terawattheure. Bon. Et on voit qu'on a déjà une diminution de la consommation d'énergie. Alors c'est un petit peu faux maintenant depuis 2-3 ans, parce que la consommation d'énergie un peu partout est repartie à la hausse, ce qui est bien embêtant, parce que jusqu'à présent, depuis une quinzaine d'années, la consommation d'énergie s'était stabilisée en France, et voire était même commençait à diminuer. Donc dans le bâtiment, on avait une diminution, donc là l'idée c'est que plutôt que de voir une diminution qui se maintient, voire même qui se ralentit, c'est d'accentuer fortement cette diminution, donc principalement par des actions sur l'efficacité énergétique. Donc là, on va travailler surtout sur la rénovation thermique des bâtiments. On va isoler massivement les bâtiments. Ça, c'est une mesure extrêmement importante. Et puis, il y a aussi une dimension sobriété. Alors, dans le bâtiment, la sobriété, ça va être tout ce qui sera le travail sur l'utilisation des appareils électriques, mais aussi sur le niveau de confort, sur la taille des bâtiments, parce que une maison bien isolée, à même niveau d'isolation, ben, consomme plus si elle est petite que si elle est grande. Donc il y a aussi toute la question de combien on vit par mètre carré, etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait là-dessus sur le taux d'occupation des logements. Dans les transports, il y a beaucoup plus de sobriété que d'efficacité, parce qu'on a considéré qu'on allait de toute façon tendanciellement vers des moteurs qui consommeraient de moins en moins d'énergie. Hein, donc c'est toujours par rapport à un référentiel. Ici, un scénario dit de référence ou qu'on appelle, nous, dit tendanciel. Hein. Et donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on rajoute, c'est essentiellement une dimension sobriété. Donc, c'est beaucoup de l'intermodalité, du report modal, de la diminution des besoins en transport et notamment des besoins de mobilité imposés par un urbanisme qui ne permet pas d'aller au travail à pied ou à vélo facilement, etc. Donc, il y a tout un travail aussi sur les besoins en mobilité, et puis également sur l'industrie. Alors sur l'industrie, c'est aussi beaucoup plus un effort sur la sobriété sur l'efficacité et sur la sobriété, c'est lié énormément à... alors, si par exemple, dans le bâtiment, on construit moins de bâtiments que dans le scénario tendanciel, parce que ben, on a moins de l'augmentation de mètres carrés par personne, ça veut dire qu'on va économiser beaucoup de matériaux, du béton, de l'acier, etc. On va beaucoup plus recycler. Voilà. Donc, dans l'industrie, c'est tout ce qui est lié à la fois à l'éco-conception, à l'économie circulaire, au recyclage, à une moindre redemande en matériaux d'une façon générale. On a regardé d'ailleurs l'augmentation de la demande en matériaux pour les technologies type éolien, solaire, etc. Hein, et on a regardé ce que ça représentait en tonnes de béton par rapport aux tonnes de béton économisées dans le bâtiment, le simple fait d'être 0,1 personne de plus par ménage en moyenne, hein, bah, ça économise des millions de tonnes de béton. Voilà. Et comme on dit, on préfère isoler les bâtiments, enfin l'isolation des bâtiments que l'isolement des personnes. Il y a tout un travail aussi sur le fait qu'il faut remettre aussi bah, des personnes. Là, si on continue les tendances, par exemple, sur le bâtiment, je fais une petite digression, mais demain, c'est 2 personnes par ménage en moyenne. Donc 2 personnes par ménage en moyenne, ça fait beaucoup de personnes qui vivent seules. Et on nous dit, ouais, mais vous voulez empiler les gens dans des tours, donc, c'est pas ce qu'on dit. Nous, on dit, on veut remettre du lien social, et remettre du lien social, ça commence par des logements où les gens sont plusieurs et pas tout seuls. Alors, on ne dit pas qu'on va faire des communautés partout, c'est juste le coefficient, c'est passé de 2,2 ménages à, enfin 2,2 personnes par ménage à 2,1 au lieu de passer à 2,0. D'accord ? C'est à ce niveau-là que ça se joue, hein, ce qu'on a mis dans le scénario négawatt. D'accord ? C'est pas énorme et c'est pour nous, ça nous paraît quand même voilà, une direction assez facile à atteindre. Il faut que je regarde, je pense que je suis en train d'exposer mon objectif de présentation. Alors après, voilà, on a des bilans énergétiques, mais je vais passer rapidement. À la fin, ce qui est important, c'est combien de gaz à effet de serre on émet sur le territoire national. Et donc, dans notre scénario, vous voyez que on a pratiquement sorti le gaz carbonique qui vient de l'énergie. C'est-à-dire que c'est un scénario où il ne reste pratiquement plus d'énergie fossile, en réalité. Par contre, il nous reste quoi ? Il va nous rester un peu de gaz carbonique hors énergie. Donc ça, c'est l'industrie, c'est le ciment, c'est la chaux. C'est des matériaux comme ça où on n'a pas tout enlevé. Hein. Et puis, il va nous rester principalement 2 gaz ici qui sont le méthane et le protoxyde d'azote. Et là, c'est principalement des gaz d'origine agricole. Inversement, donc on est passé de un peu plus de 450 millions de tonnes de gaz carbonique équivalent émis aujourd'hui sur le territoire métropolitain à peu près 70, donc on est sur un facteur 7, hein, on a divisé par 7-8 les émissions totales de gaz à effet de serre. Et inversement, on a la forêt et l'agriculture qui vont stocker du carbone. Donc la forêt, parce qu'elle stocke du carbone déjà beaucoup aujourd'hui, et demain, alors la forêt risque de moins stocker du carbone pour des raisons climatiques notamment, mais l'agriculture, elle, va se mettre à en stocker de plus en plus parce qu'on va arrêter ou limiter fortement l'artificialisation des terres agricoles. On va faire de l'agroforesterie, on va arrêter de labourer, on va mettre des haies, etc. On va mettre des couverts végétaux. Donc, on va stocker beaucoup plus de carbone dans les sols agricoles. Et donc, globalement, on va avoir ce qu'on appelle des puits de carbone dans les écosystèmes vivants qui vont compenser les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Donc là, on sera à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire que les puits compensent les émissions résiduelles. Donc, vous voyez que ici, la question du climat, ça ne sera plus une question d'énergie. Aujourd'hui, c'est majoritairement une question énergétique, le CO2 énergie. Demain, ça sera une question d'écosystème, écosystème forestier et agricole. On va à la fois émettre du méthane et du protoxyde d'azote, mais on va aussi stocker du carbone. Donc la problématique du climat, en fait, va changer radicalement entre aujourd'hui, où c'est largement les questions d'énergie, et demain, où ça sera des questions de biologie. Alors, trois illustrations rapides. Première illustration, c'est les économes de flux. Alors, qui sait ce que c'est qu'un économe de flux parmi vous ? Jean-Marc, tu as le droit de lever la main. Ok. Est-ce qu'il y en a des économes de flux parmi vous ? Non. Alors, les économes de flux, pour nous, c'est, comme je les appelle, les soutiers de la transition énergétique. La transition énergétique, ça ne se fait pas de façon désincarnée. Ça se fait par des gens qui y travaillent et qui y passent éventuellement leur jour, voire leur nuit. Donc, un économe de flux, c'est quoi ? C'est des gens qui vont chercher à optimiser tous les flux par des actions transversales et systémiques dans les structures où ils sont employés. Notamment aujourd'hui, c'est dans les collectivités locales. Une collectivité locale, aujourd'hui, un économe de flux, c'est un technicien qui est chargé d'aller vérifier que les trucs là sont bien réglés, que les fenêtres sont bien fermées, que les usagers des bâtiments les utilisent comme il faut, de vérifier que la chaudière est bien entretenue, etc. Donc c'est un travail quotidien de vérification des fuites, des compteurs, de tout ce qu'on veut. Et donc il va travailler sur le chauffage, sur la climatisation, la ventilation, l'électricité. On peut même rajouter aussi la mobilité là-dedans, mais on va aussi travailler sur l'eau, sur les process qu'on est sur... ça peut être sur des cantines, par exemple. Hein, donc il y a aussi des process de fabrication qui sont en dehors des flux d'énergie plutôt bâtiments. Mais on peut aussi travailler, ça sera un peu une extension sur les flux de matière, sur les consommables d'une façon générale, etc. Donc voilà, Thierry, ça va bon. Et donc, première chose, il faut d'abord comprendre. Pour pouvoir agir, il faut comprendre. Donc ça veut dire qu'il faut mesurer. Ensuite, il faut suivre en temps réel. Donc on va faire des tableaux de bord. On va faire du suivi de mesure. On va regarder les dysfonctionnements. Et puis on va chercher à optimiser. Donc optimiser, on va regarder le niveau de température, de débit, d'éclairage, l'optimisation dans le temps. Donc on va mettre des horloges. On va vérifier que ça s'éteint bien, que ça s'allume bien. Quand il faut, on va chercher à mutualiser, à limiter l'obsolescence, et on va travailler sur l'optimisation tarifaire. On a beaucoup d'exemples comme ça en collectivité locale où l'économe de flux, son poste, il se le paye déjà en regardant les compteurs sur une collectivité qui a 20 000 habitants. Il y a plusieurs dizaines de bâtiments publics hein, sur lesquels vous avez donc plusieurs dizaines de compteurs d'électricité, certains qui sont obsolètes depuis des années, personne ne les a jamais débranchés, et on continue à payer une facture qui ne correspond à aucun service rendu. Ça existe. C'est monnaie courante, tout le temps, on le trouve dans les collectivités locales. Hein, et de débrancher un compteur et de supprimer l'abonnement qui va avec, vous faites une économie immédiate, sans aucun investissement, juste en mettant un petit peu de matière grise, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça. Ce n'est pas les services comptables qui ne voient pas, eux, physiquement à quoi correspond un compteur, puis ce n'est pas les services techniques qui ne savent pas, eux, que le compteur, il est une facture qui court derrière, etc. Voilà. Et puis, gros travail aussi dans le poste d'économe de flux, c'est convaincre que ce poste-là est utile. Donc, il faut sensibiliser donc les usagers, mais il faut aussi faire du suivi. Et puis, surtout, il faut convaincre les élus et les services que ces postes sont utiles. Vous n'avez jamais vu une inauguration d'un économe de flux. Enfin, un économe de flux, ça ne s'inaugure pas, on ne peut pas couper de ruban, rien du tout. C'est un truc qui se voit pas. Il fait des économies, donc les économies, c'est un peu la difficulté. Une économie, ça ne se voit pas. Et pourtant, quand on regarde un petit peu, pour une ville de 10 000 habitants, le gain la première année, c'est 50 000 euros. D'accord, 50 000 euros, avec ça, vous payez un salaire de technicien. Et ça, c'est la première année. C'est-à-dire que tous les ans, il va faire la même économie de 50 000 euros avec les premiers trucs qu'il a fait en arrivant. Donc, il a financé son poste à vie. Et les années d'après, il finance son poste, ben, il est déjà payé, donc il va financer les postes de ses collègues. Et on peut faire 10 à 20% d'économies facilement, sans, là on parle de zéro investissement pratiquement, juste des bricoles. Extinction de l'éclairage public par exemple. Dans les collectivités aujourd'hui, vous éteignez les lumières entre 23h et 6h du matin, personne ne voit rien. Moi je peux en témoigner parce qu'on a fait ça dans ma commune. Les seules plaintes qu'on a reçues, c'est des gens qui disent « Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt ? Et pourquoi vous commencez à rallumer à 6h du matin ? Vous pourrez gagner une demi-heure de plus. » Bon, et même l'opposition trouve que c'est une mesure d'avenir. Bon. Donc on n'a eu aucune plainte. On a travaillé avec la police municipale, la gendarmerie à l'époque, qui a dit qu'en termes de... Voilà, en termes de sécurité, c'est pas un problème, parce que les voleurs, ils ont besoin de l'éclairage public pour éviter de se balader avec une torche qui dit à tout le monde « Coucou, je suis en train de... » Voilà, et donc aucun problème, quoi. Et donc il y a plein de mesures comme ça qui sont des mesures simples, élémentaires. Et moi, ma grande question, si quelqu'un veut me trouver la réponse, c'est pourquoi il n'y a pas des économes de flux dans toutes les communes de France. Alors après, il y a deux choses, hein. C'est soit on est une grande collectivité, mais alors on pourrait aussi dire la même chose sur les entreprises, parce que ce qu'on dit nous en collectivité, dans les entreprises c'est pareil, un économe de flux dans une entreprise un peu conséquente, tout de suite il fait 10 à 20% d'économie d'énergie sans investissement. 10 à 20%, c'est énorme. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin de loi, ça existe, le poste il s'autofinance, donc on n'a même pas besoin d'aller quémander des subventions, etc. C'est juste qu'il s'autofinance. Bon. Et donc, on peut le faire dans les grandes collectivités, mais dans les petites collectivités, il y a un dispositif qui existe, ça s'appelle le conseil en économie partagée. Conseil en économie partagée, c'est quoi ? Ben, c'est quand on n'est pas qu'on n'a pas les moyens tout seul de payer son économie de flux, parce qu'il faut quand même 10 000, bon, mettons 20 000 habitants pour justifier un poste, et bien on s'assise aussi à plusieurs communes. Alors après, la question, c'est oui, mais alors toutes les communes, est-ce qu'on cotise pareil, est-ce qu'on paye au service rendu, etc., etc. Donc il y a des discussions, des fois un peu sans fin, sur qui paye, qui bénéficie du service, mais tout ce qui est mutualisation intercommunale, c'est un peu le lot commun, quoi, hein, voilà. Et donc aujourd'hui, une mesure, moi je n'ai encore pas trouvé de défaut, à part le fait qu'elle n'est pas populaire dans le sens où ça peut pas s'inaugurer, mais ça ne coûte rien, ça rapporte. Et aujourd'hui, je dis même que ne pas embaucher d'économes de flux dans une collectivité qui a les moyens, c'est une faute politique et c'est une faute professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on cherche des moyens, des marges de manœuvre budgétaires par tous les moyens. On licencie des postes essentiels dans les services publics, les ATSEM, etc. Là, on peut trouver des sous, parce qu'on les économise. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Et donc, c'est une question à poser à tous vos conseillers municipaux, embaucher des économes de flux. Et quand vous aurez fait ça, on pourra discuter de transition énergétique. Avant, ce n'est pas la peine, parce que ça, c'est le premier pas élémentaire. On se donne des compétences en interne pour faire chez soi ce qu'il faut, quoi, le ménage minimum pour montrer aux autres, aux acteurs du territoire, les agriculteurs, les artisans, les transporteurs routiers, tout ce que vous voulez, que nous, en tant que collectivité, on prend nos responsabilités et on fait des trucs faciles et élémentaires qui ne coûtent rien à personne. Bon. Le deuxième sujet, c'était sur le gaz renouvelable. Alors là, on est sur les énergies renouvelables, transport, agriculture, et sur une filière en construction. Donc c'est pas tout à fait comme les économes de flux, où là, c'est... ça coûtait rien et ça rapporte. Là, c'est plus compliqué parce que c'est toute une filière qu'il faut construire. Alors, le gaz renouvelable, c'est quoi? D'abord, tout le monde a vu des bus fonctionner au gaz. Le gaz naturel pour véhicules, ça parle à tout le monde ou pas? Bon. Et donc, on peut faire des véhicules qui roulent au gaz et même qui roulent au gaz d'origine renouvelable. Ça s'appelle le biogaz produit par la fermentation des déchets, par exemple, des fumiers agricoles, etc. Alors pourquoi nous, c'est une solution qu'on mobilise, le gaz naturel pour les véhicules d'origine renouvelable? C'est parce qu'on ne pense pas que l'électricité soit la seule solution pour les transports. Elle a une place qui est importante dans le scénario, mais elle n'a pas toute la place. On ne veut pas faire dans les transports ce qu'on a fait à une époque pour le bâtiment, à savoir du tout électrique avec quelques soucis ensuite derrière. Les biocarburants liquides, que ce soit première ou deuxième génération, ils posent d'autres questions. Et sur le gaz renouvelable, c'est une technique qui existe déjà. Il y a plein de véhicules qui fonctionnent au gaz. Il y a aussi l'acceptabilité par l'industrie des transports. C'est plus facile de passer au gaz que de muter complètement vers le tout électrique. Il n'y a pas de particules. Donc pour la qualité de l'air, c'est aussi un carburant qui est intéressant. Et puis c'est surtout qu'on a plusieurs façons d'avoir des ressources renouvelables pour fournir du gaz. Donc d'origine agricole, à partir de bois, à partir de power to gas. Mais je ne vais pas vous développer plus... ces solutions. Et puis on peut avoir aussi une transition progressive du gaz fossile vers le gaz renouvelable, parce qu'on peut verdir le gaz de plus en plus de façon progressive au fur et à mesure que la flotte de véhicules à gaz va augmenter. Et puis à la différence de l'hydrogène, c'est qu'on a une infrastructure de distribution, de transport, de stockage qui existe, ce qui n'est pas le cas pour l'hydrogène, qui est un vecteur qui est intéressant mais qui présente beaucoup de contraintes et de limites en termes de d'adéquation entre la production et l'usage. Donc, comme j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup, je vais avancer. Je vais avancer. Juste pour le biogaz, je vous renvoie aussi à nos travaux, donc AFTER, qui est présenté tout à l'heure par mon collègue Philippe Pointereau, où nous, on lie la méthanisation et l'agroécologie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de débats, de discussions là-dessus, mais nous on milite pour une méthanisation agroécologique, un outil pour accompagner la mutation des systèmes agricoles. Et ça, c'est notre travail, là où je travaille à Solagro au quotidien. Voilà. En termes aussi de faisabilité, donc est-ce qu'on peut, c'est vrai que le gaz de carburant, c'est pas beaucoup connu, et que vous créez des députés européens qui sont pourtant en charge de dossier transport, hein, c'est un peu surprenant pour nous, mais il faut voir que dans le monde, on a plus de 20 millions de véhicules qui fonctionnent au gaz contre 2 millions pour l'électricité. Il y a beaucoup plus de véhicules au gaz naturel dans le monde que de véhicules électriques, et c'est une croissance de 20% par an, ça a été multiplié par 10 en une douzaine d'années. Il y a plein de pays où on a déjà des exemples de massification d'un parc de véhicules au gaz, y compris nos proches voisins, c'est l'Italie, où ils ont 1 million de véhicules. Et en France, c'est beaucoup sur les poids lourds que le gaz est attendu, parce que les transporteurs routiers nous disent de façon assez unanime qu'aujourd'hui, la solution électrique n'est pas mûre pour les poids lourds, parce que 44 tonnes, c'est 20 tonnes de batterie, d'accord. Et donc, aujourd'hui, à part des autoroutes électriques, mais qui, on se dit, plutôt que de financer les autoroutes électriques, remettons des sous sur la SNCF, ça serait pas mal. Et sur les autoroutes électriques, il y a des solutions qui sont plus simples avec des véhicules à gaz et qui ne nécessitent pas des tonnes d'éléments conducteurs pour le stockage, etc. Et puis en France, la filière biométhane, donc on a travaillé activement à Solagro, donc c'est une filière qui est apparue en 2011, hein, c'est tout récent, et là c'est en train de décoller, et l'an dernier, on a doublé. Alors pour l'instant, on est encore sur des volumes qui sont faibles, hein, mais c'est une filière qui a vu sa production doubler en un an, et donc voilà, donc nous on a des grandes ambitions pour le gaz renouvelable. Oui. Eh bien, il me restait juste la troisième partie sur le bâtiment. Thierry, puisque tu es là.
Je prends le relais puisque je suis là. Excusez-moi d'être arrivé en retard. J'étais, comme tu as dû l'expliquer, sur une autre réunion. Concernant le bâtiment dans le scénario mégawatt, l'idée principale est bien d'appliquer le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. Et de travailler sur les éléments de sobriété. Alors, il y a des éléments de sobriété dans le bâtiment qui sont, par exemple, sur les surfaces chauffées. On s'aperçoit en fait qu'on a énormément de surfaces chauffées sur lesquelles il y a peu de mutualisation, par exemple dans les collectivités, etc. Il faut développer également ce qu'on pourrait appeler la cohabitation intergénérationnelle. On fait actuellement des logements, des maisons individuelles sur lesquelles les personnes plus âgées restent sur place, toutes seules dans leur maison. Et la maison est tellement mal faite qu'on ne peut pas, par exemple, accueillir un étudiant parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut en termes d'espace, une seule salle de bain, etc., etc., etc. Et donc, du coup, la personne âgée va être ensuite assez rapidement dans une maison de retraite ou dans un EHPAD, où elle va consommer beaucoup plus que ce qu'elle consommait avant. Lorsqu'elle est seule dans sa maison individuelle, elle consomme finalement deux fois plus que s'il y a deux personnes. Alors, ça veut dire revenir à une cohabitation intelligente de l'occupation, en quelque sorte, de l'espace. Il y a aussi énormément de mètres carrés qui sont inutilisés. En région parisienne, vous avez à peu près 1,5 million de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Donc, notre objectif n'est pas de construire plus, mais de construire mieux à la place, avec une relative densification intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, en ville, au lieu d'occuper encore plus d'espace, éventuellement de grignoter sur des espaces qui sont des espaces cultivables, parce qu'on a besoin de ceintures maraîchères proches des villes, eh bien, comme ça se fait dans pas mal de pays, le rajout d'un étage, notamment en acier pur bois, par exemple, pour le problème de poids et de formation, permet d'augmenter légèrement la densité de façon derrière à diminuer également les consommations d'énergie et de matière. En ce qui concerne la matière, le scénario est fondé sur un basculement le plus possible vers l'ossature bois et vers des matériaux isolants biosourcés. En gros, la réutilisation de ce que nous offre la photosynthèse au travers du bois, qui en plus est un élément stockeur, en ossature bois, du carbone, bien sûr, de matériaux biosourcés, bah, échanges, etc., etc., dont maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années, on sait bien comment faire pour éviter toute dégradation. C'est des matériaux qu'on peut assurer, sur lesquels il y a tout ce qu'il faut en termes de documents techniques unifiés, etc., etc. Lorsqu'on regarde l'ensemble de ce basculement, eh bien, on a des éléments de sobriété qui sont assez importants, très, très significatifs. Et puis, après, derrière, il y a évidemment la partie de l'efficacité. Et là, elle est sur plusieurs niveaux. En ce qui concerne le bâtiment neuf, ou les très fortes rénovations, c'est-à-dire sur lequel, comme je le disais tout à l'heure, on va rajouter un étage, par exemple, etc., il faut impérativement être sur un niveau du quasi-passif. Alors, ce qu'on appelle le passif, c'est dans le domaine du bâtiment, c'est le moment où on n'a pratiquement plus besoin de chauffage. Dans certains cas, on peut quasiment s'en passer, sauf sur quelques moments. Par exemple, vous n'êtes pas là durant le week-end, vous êtes dans la maison tombée pour relancer, etc. Mais on a maintenant des dispositifs qui permettent de réduire, je vais simplifier un petit peu, la consommation d'énergie en termes de chauffage aux alentours des 20-25 kWh par mètre carré. Pour prendre simplement un point de comparaison, on part de 250. C'est-à-dire qu'on a actuellement des logements, notamment ceux qui sont avant toute réglementation énergétique, c'est-à-dire la première réglementation énergétique, c'est 74, après 77, on a encore énormément de logements, aux alentours de 15 millions de logements, qui ont été conçus avant toute rénovation énergétique. Ces logements-là consomment de l'ordre de 200-250 kWh par mètre carré par an. On sait faire du 25. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on sait faire une division par 10, une vraie évolution, on n'en parle pas. On sait faire maintenant, grâce à l'isolation, grâce à la réduction de la pollution thermique, aux fenêtres extrêmement isolantes, on sait réduire par un facteur 10 la consommation de chauffage. Si bien que le poste de chauffage devient maintenant un poste secondaire. Les postes les plus importants commencent à être, dans les bâtiments neufs, l'eau chaude, et puis l'ensemble de l'appareillage, etc., etc. Donc, ce travail-là sur le neuf. Et puis, il y a le grand problème, évidemment, de la rénovation énergétique du bâti. Comme je l'indiquais, on a de l'ordre de 20 millions de logements à rénover. C'est un chantier énorme. C'est le plus grand chantier de France qui est de loin. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'il n'est pas visible. C'est pas comme un gros chantier industriel, etc., sur lequel on peut se dire, c'est formidable, on va avoir 2000 ouvriers pendant quelques années. Là, c'est un chantier, mais l'énorme avantage, c'est que c'est un chantier territorial. Et c'est un chantier sur 35 à 40 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui, aujourd'hui, en tant qu'artisan, se met avec une spécialisation sur la rénovation, il a 30 à 40 ans de boulot devant lui. Donc c'est un chantier aussi très diversifié. Et là où c'est difficile, si vous voulez, c'est que la rénovation du bâtiment, c'est un peu comme, si vous voulez, faire de la haute couture, mais pour le prix du prêt-à-porter. Pourquoi ? Parce que chaque maison est différente, chaque logement, etc. On a des gens qui sont occupés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on en fait pendant les travaux, etc., etc. Donc il y a quand même une complexité, si vous voulez, assez importante, et sur lequel, pour l'instant, on a du mal à trouver la bonne façon d'opérer. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les artisans travaillent vraiment trop séparément, et là, il y a des gains d'efficacité, de mutualisation, etc., sur les coûts, sur le temps de travail, sur les logiques de transport. Il y a aussi des métiers à créer, qui sont des métiers de rénovateurs. Et moi, je crois que ça pourra s'amplifier à partir du moment où on va essayer de simplifier l'accès à la rénovation vis-à-vis des gens. Je pense que les gens, maintenant, sont habitués à acheter un service, mais avec une grande simplification de l'accès. C'est ce qu'ont compris les grands opérateurs, téléphonique ou autre, etc. Il faut que ça soit simple. Si c'est compliqué, si la rénovation continue à être une sorte de, en souvent cette comparaison de 110 mètres haies, et alors la première haie, on va se documenter un peu, la deuxième, on va chercher un point info, un peu de documentation, la troisième, on commence à regarder les voisins, etc. C'est très compliqué, c'est très long, et on se casse la figure à la cinquième ou la sixième haie. Il faut accompagner les gens et sécuriser l'investissement, et alors qu'on arrive maintenant à avoir des coûts qui permettent de faire en sorte que la rénovation puisse se payer au travers de la diminution, évidemment, de la consommation d'énergie, lorsqu'on est à un niveau relativement haut. Voilà, ça c'est le grand chantier de demain, avec celui de la mobilité dont tu as parlé.
Voilà.
Je n'ai pas suivi tout à fait. Mais ce n'est pas grave. Alors, vous avez, Jean, c'est terminé.
Oui, on termine.
J'en profite pour faire à ce moment-là un tout petit peu d'informations. Si vous voulez vous intéresser aussi à nos mégawatts, on vous recommande de commencer par là. Alors, ça, c'est un petit document qui est téléchargeable sur notre site. Il y a une douzaine de pages. Il est vraiment très, très compréhensible. Ça s'appelle Scénario Mégawatt 2017-2050. C'est téléchargeable en PDF, j'en ai amené quelques exemplaires. Et puis après, derrière, vous avez sur les politiques énergétiques, la synthèse du scénario mégawatts, là, déjà un petit peu plus compliqué. Mais sur la politique énergétique, il y a un livre qui s'appelle « Le manifeste mégawatt ». Il est maintenant en livre de poche chez Actes Sud, d'Abel. Pour 10 euros, vous avez 400 bonnes pages de lecture pour vous familiariser avec à la fois les concepts énergétiques et puis ce qu'on propose et le scénario. Si 400 pages pour vous, c'est un petit peu long, vous avez un petit livre qui s'appelle « Changeons d'énergie ». Il fait une centaine de pages et en 2 heures, vous aurez déjà un premier aperçu. Dernier point, on a énormément de documents sur notre site, des graphiques, des rapports, etc. Mais on va publier la semaine prochaine un document nouveau qui s'appelle « La sobriété énergétique » et qui explique justement qu'est-ce qu'on entend par sobriété énergétique sur tous les plans, à la fois de la sobriété en termes d'usage, la sobriété dimensionnelle, la sobriété en termes de partage d'équipements, etc., etc. Donc ce document donne beaucoup d'exemples et explique ça et aide à comprendre pourquoi cette notion de sobriété, et je termine là-dessus, est très importante dans le scénario. Mégawatt, il représente à peu près le quart, pour simplifier, du gain possible par rapport à l'objectif et en même temps, c'est aussi des gains rapides. Or, en matière notamment d'effet de serre et de diminution de la consommation d'énergie et des émissions correspondantes, on a besoin d'actions rapides. Plus l'action est rapide, et moins le cumul d'émissions correspondantes sera faible, évidemment.
On va prendre encore un peu de temps. Donc d'abord merci à Christian et Thierry pour leur exposé. Il reste, on a 10 minutes là, de questions-réponses pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment. Oui. D'abord. C'est la première. Merci.
Moi j'avais deux questions à vous poser par rapport au bâtiment. Je me trouve dans le bâtiment aussi. C'était des questions techniques. On parlait aujourd'hui de l'énergie, là, parlait surtout du chauffage. Aujourd'hui, dans la construction neuve, il y a tout l'enjeu autour de la climatisation, du confort d'été. Ça, j'aimerais savoir comment vous l'avez pris en compte dans votre scénario, parce que c'est une consommation qui amène de plus en plus à être dans la société. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la rénovation. On assiste à quelque chose. C'est aujourd'hui, un exemple concret, quand on rénove un vieux bâtiment, comme vous, une vieille maison en pierre, une personne qui arrivait à chauffer au bois en ayant 16 degrés dans sa maison, demain on rénove sa maison, on l'isole, on change de menuiserie, etc. Elle va toujours consommer la même énergie, mais juste gagner en confort. Les diminutions de consommation énergétique que vous considérez dans la rénovation, sur quoi est-ce que vous basez? Parce qu'on peut juste gagner en confort et continuer à consommer la même énergie. Est-ce que ça, c'est les choses que vous avez décrites?
Alors, réponse sur ces... Je réponds maintenant.
Oui, c'est d'accord.
Donc, réponse là-dessus. Sur la climatisation, on a un énorme problème. On a un énorme problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien faire des bâtiments qui répondent correctement aux problèmes des surchauffes d'été, surtout dans le cas de canicules longues. C'est-à-dire que si vous avez une canicule longue, sur 8-15 jours, le bâtiment, il commence à monter en température, tout monte en température, l'extérieur, la nuit, etc., etc. Et les réponses sont difficiles. Alors, la première réponse, c'est... On a des réponses pour le neuf. On manque de réponses pour l'existant. Sur le neuf, déjà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un vrai travail sur l'été. Moi, je travaille très professionnellement dans ce domaine-là, sur la conception des bâtiments, leur simulation, etc. On simule pour l'été, on simule pour l'hiver, l'hiver on s'y fait. Et alors que la réglementation thermique fait exactement l'inverse. Elle est tout à fait déficiente sur l'été. Elle n'a pas bougé en réalité depuis pratiquement 10 ans et plus, et elle est mauvaise sur l'été. Donc là, on a un vrai problème, qui est qu'actuellement, on fait des bâtiments très basse consommation, ils sont parfaitement réglementaires, RT de 2012, etc., etc. Ils sont très mauvais sur la sûreté, qui ne répondent pas aux, aux problèmes. Ensuite, après, derrière, sur la deuxième question que vous posez, effectivement, on a une augmentation, comment dire, lorsqu'on part avec un bâtiment existant, sur lequel les gens se chauffent très mal, les gens sont à 15 degrés, 16 degrés, etc., et qu'on les amène à un niveau de confort plus élaboré parce qu'il y a de l'isolation, on va retrouver une consommation d'énergie qui n'est pas, une baisse de la consommation qui n'est pas aussi importante que si on partait de 20, 21, 22, 23 degrés. Donc, mon exemple de tout à l'heure était sur, par exemple, les logements des années 75 qui sont mal isolés et souvent surchauffés en collectivité. Voilà. Cela étant, si vous avez un bâtiment qui est très basse consommation, pratiquement passif, l'écart ensuite de température entre 19 et 20 degrés, il joue pratiquement plus. Et puis il y a un effet qui joue, c'est un tout petit peu technique, c'est que si vous êtes très isolé, à ce moment-là, et si vous avez bien travaillé l'isolation également de l'air, c'est pas d'infiltration par habit, vous avez à ce moment-là un air à l'intérieur du logement qui est stabilisé. Et les parois sont pratiquement à la même température de l'air. Auquel cas, vous êtes confortable à un niveau de température plus bas. Ça aussi, c'est bien. Voilà.
Il nous reste 3 minutes, donc il y a deux personnes qui avaient levé la main. Et regarde, je vais laisser des questions rapides et on va peut-être prendre les deux, trois questions en même temps et après essayer de répondre.
Deux questions rapides. La première à la méthanation, si vous pouvez nous en dire un mot. C'était effleuré.
Oui.
Et la deuxième, c'est sur le véhicule électrique. Moi, c'est quelque chose qui m'interpellait énormément. Tout à l'heure, j'étais en il y avait un gérant d'une société de production d'électricité solaire ou éolienne qui prenait le véhicule électrique comme une des solutions au développement d'une machine.
Alors, sur.
Est-ce qu'il y avait d'autres expériences à l'international dans d'autres pays qui réfléchissaient à ce genre de scénario?
Un scénario, ça.
Quelles expériences vous en seriez?
Et on essaie de faire un.
Oui, non, on met des. C'est une question en forme de boutade très simple. Je vais revenir dans un des slides passés. L'essentiel des bâtiments 2050 est déjà construit. J'habite la métropole d'Arbonnet, le président de la ville est incompris parce que je vois les tours partout, je ne suis pas le construire. Donc là, on était l'essentiel des bâtiments en 2050,
déjà construit. Oui, oui, à l'échelle nationale, oui, c'est vrai. Alors Bordeaux, c'est vrai que Bordeaux, c'est un peu particulier mais, en ce moment, mais à l'échelle nationale, oui. Alors, je réponds. Voilà. Alors, en deux minutes. Alors, sur la méthanation ou le power to gas, c'est vrai que dans une diapo, je dis que c'est une des sources de gaz renouvelable. Alors, en gros, l'idée, c'est quoi? J'essaie de ne pas vous perdre. Dans un scénario, on n'aura plus que des énergies renouvelables en électricité. On aura beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien. Le solaire et l'éolien, on a compris que le solaire, ça fonctionnait plutôt le jour que la nuit, et l'éolien, quand il y a du vent, quand il n'y en a pas. Bon. Parce qu'on est ingénieur quand même. On a souvent dit que le solaire c'était que le jour et que vous n'y pensez pas la nuit, comment on fait? Donc comment on fait? Ben, en fait, on va avoir des pics de production d'électricité qui vont être largement au-dessus de la consommation à certaines périodes de l'année. Alors on essaie de les rapprocher parce que sur la consommation il y a plein d'options de régulation de la demande avec aujourd'hui ce qu'on appelle les effacements jour de pointe, avec les tarifs jour-nuit, enfin heure-creuse, heure-pleine, des trucs comme ça. Donc demain il y en aura plein et ça ne sera pas que la nuit comme aujourd'hui, ça sera aussi dans la journée. Bon. Donc on va utiliser toutes ces options de régulation de l'offre et de la demande, mais on aura quand même des excédents d'électricité. Donc plutôt que de les perdre, c'est simple, hein, on peut dire soit on découple les éoliennes du réseau et on a un manque à produire, c'est pas une perte, c'est juste un manque à produire, c'est pas grave, les éoliennes au lieu de tourner l'équivalent de 2800 heures, elles vont tourner 2600 heures dans l'année, bon voilà, on s'est dit ça serait intéressant de récupérer ces excédents d'électricité et donc on va transformer cette électricité en hydrogène par électrolyse. On fait de l'électrolyse de l'eau, on met deux causes de batterie dans une bassine d'eau, vous avez l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre, on peut faire ça dans son garage. Hein. Et donc on produit de l'hydrogène. Cet hydrogène, on peut l'utiliser. Alors le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas trop l'envoyer dans les réseaux, l'utiliser en continu, enfin il y a plein de difficultés. Donc nous l'idée qu'on a trouvée, c'est on va faire réagir cet hydrogène avec du gaz carbonique, on va produire du méthane, ça s'appelle la méthanation, les réactions de Sabatier, hein, qui est notre prix Nobel de chimie toulousain. Et donc ce gaz méthane, on peut l'injecter dans le réseau de gaz naturel, parce que c'est le même gaz qui est contenu dans les réseaux de gaz naturel. Et donc du coup, on va recharger les réservoirs de gaz naturel quand on a des excédents d'électricité, donc beaucoup en été, et on va pomper sur les réservoirs, plutôt en hiver, pour alimenter l'ensemble des usages du gaz naturel, y compris des centrales à gaz qui vont être là en secours, notamment en hiver, pour fournir les besoins du réseau. Donc on articule le réseau électrique et le réseau gaz ensemble. Et ça, c'est aussi un des apports du scénario, d'avoir cette vision intégrée des deux grands réseaux d'énergie qui sont l'électricité et le gaz.
C'est une technologie mature.
Alors, c'est une technologie qui existe aujourd'hui, elle est mature, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérations qui existent aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches, nous on mène des travaux par exemple à Solagro sur de la méthanation biologique, des nouvelles voies de conduire cette réaction, mais c'est mature, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas besoin même de pilotes ou de démonstrations, en France ce n'est pas trop nécessaire, ça le sera dans une quinzaine d'années qu'on aura beaucoup plus d'électricité éolienne et qu'on aura arrêté le nucléaire en 2035, dans nos scénarios.
Alors on a plus de temps, donc j'ai deux points d'avance à faire, donc le temps que je les fasse, Muriel va passer parmi vous, pour faire appel à votre générosité, sachant qu'on est, comme vous savez peut-être qu'on ne peut pas encore, tout le week-end est autofinancé par Alternativa, donc on a besoin de petits ressources pour pouvoir terminer ce coquet dans tout le monde. Donc merci à nouveau à Christian et Thierry.
Merci pour les réponses.
Éventuellement, s'ils sont encore un peu disponibles, je vais les voir après. Moi, j'ai quatre annonces à vous faire. S'il vous plaît. Et après, je vous libère. Quatre annonces à faire pour aller plus loin. Donc, je vous en ai parlé. Il y a le livre, c'est un mégawatt, qui a beaucoup plein de Il est en vente sur le stand Elka à la place Paul Bert. Le stand mégawatt, il est. Il en reste encore. Mais il est disponible dans beaucoup de librairies. Chose importante, rendez-vous à tous à 17h30 sur la place Paul Bert pour le meeting de fin qui va s'appeler donc le temps de l'espoir et de l'action. On a besoin d'un maximum de personnes pendant ce meeting pour donner des belles images pour que demain, dans les médias, quand on va à la fois parler du rapport du GIEC et de ce week-end, on puisse donner des belles images de mobilisation. C'est très important. Le deuxième point qui est plus localisé sur le Pays Basque, c'est un peu partout dans les stands. Sont à revendre des manuels qu'on appelle les bouillabais qui sont un projet du territoire du Pays Basque qui est souverain, soutenable et solidaire. Donc ça fait une quarantaine de pages, il est disponible en français et en basque et il est en vente à seulement 3€, 3€. C'est un projet, c'est fait pour faire réagir et ouvrir le débat sur comment doit s'organiser un territoire pour être pour augmenter sa résilience et justement comment il peut contribuer à comment on peut localement contribuer à ce qui entre autres est repris dans le scénario mégawatt ou dans le scénario de la Terre d'ailleurs. Et enfin, dernier point, pour ceux qui ne l'ont pas encore rempli, un peu partout aussi, vous pouvez avoir des formulaires de défis avec 7 défis sur lesquels vous pouvez déjà vous être engagé ou sur lesquels vous êtes prêt à vous engager. Donc n'oubliez pas de le remplir, et de le donner dans les urnes qui sont prévues à cet effet. Là aussi, il y a un espace. Place Paul Bert, vous pouvez remplir votre. Voilà, merci à tous. Thank you.